si loin, si jeune. Il sourit et il dit quelque chose qu'elle n'entend pas, ne comprend pas. Elle entend soudain le son d'une chanson de Bowie, un son de casque. Ah oui, c'est la musique qui sort de son casque de motard. Il écoute Heroes et il a 27 ans. Il aura toujours 27 ans et la regarde comme les jeunes gens regardent les adultes, avec un peu de tendresse et de pitié. Elle le regarde, comme il est beau, comme il est loin. Je voudrais tellement, ne viens plus, je suis trop fatigué, trop épuisé, j'ai besoin d'oublier. Et lui soudain alors la regarde et devient grave. Il fronce les sourcils et ne comprend pas. Il approche, il a l'air si triste, si triste. Mais non, Sibyl, voilà longtemps que je ne viens plus dans tes rêves. Je ne viens pas. Je ne viens pas, Sibyl. C'est toi qui viens. C'est toi. Et alors Sibyl se réveille en sursaut. Un cri lui explose dans la poitrine. Elle reste assise. Elle cherche de la lumière, de l'espace. Elle étouffe. Elle a l'impression de se noyer. À côté d'elle, Arnaud dort. Il n'a même pas bougé quand elle a crié. Peut-être qu'elle a seulement crié en rêve. Sibyl sort de la tente d'Arnaud. Elle n'est pas habillée. Elle porte ses fringues dans ses bras, en boule. Elle n'a pas voulu s'habiller dans un espace aussi petit. Non pas ou pas seulement par peur de réveiller Arnaud, mais parce qu'elle étouffe, qu'elle se sent prise au piège dans ce rêve horrible dont elle veut chasser les images au plus vite. Et pour les chasser, il faut sortir de la tente. Il faut prendre l'air, revenir ici, dans la plaine, reprendre pied dans le réel, avaler une grande bouffée d'air frais, marcher, quelques pas seulement, mais marcher et revoir la voûte étoilée au-dessus de sa tête, sentir l'herbe sous ses pieds, la terre, et voir les yourtes autour de soi, les tentes, et puis les montagnes qui nous entourent, les forêts plus loin. Prendre le temps de sortir de ce cauchemar, arrêter de trembler et comprendre alors que ce mauvais rêve laissera sans doute son empreinte pendant quelques heures. Et puis cette sensation qui reste, troublante, vivace, terrifiante, ancrée dans l'esprit comme un corps malade, je n'ai pas rêvé. Ce n'était pas un rêve. Et elle pense que, pendant quelques secondes, une poignée de secondes, elle était réveillée et que pourtant elle était encore là-bas. Comme si le temps d'en revenir était trop long et qu'un simple réveil ne suffisait pas pour franchir assez vite la ligne qui la séparait des deux mondes. Mais quel monde? Celui de la vie réelle? Celui du rêve? Est-ce que c'était un rêve? Elle s'habille, elle frissonne. Peut-être que ce n'était pas un rêve. Pendant quelques secondes, l'idée qu'elle était peut-être vraiment chez les morts lui traverse l'esprit. Elle se sent si fébrile, si fragile, le corps tremblant, le froid, l'alcool, l'amour, lui qui dort, mon Dieu, faire l'amour, j'avais oublié comme c'est bon de faire l'amour. Elle sent sur son corps l'empreinte des mains d'Arnaud, elle ressent son poids sur elle, elle est saoule encore. Voilà, c'est tout ce qui lui arrive, se dit-elle. Elle voudrait reprendre ses esprits, retrouver le calme. Ou pouvoir seulement reprendre un à un tous les éléments de la soirée et les remettre chacun à sa place. En faire un beau jardin à la française, bien ordonné, comme si tout pouvait sortir de la confusion, de l'agitation, et trouver une place où tout, à la fin, participerait de la même organisation, de la même planification logique et rassurante, comme une cosmogonie tracée, ordonnée simplement, sans efflorescence ni chaos, sans accident ni profusion ni rhizome. Mais la vérité, c'est que le monde part totalement en vrille. Il se déploie en lianes, en racines, il défonce les pavés et l'ordre des idées. Il est comme une tumeur, organique, viscérale. Elle veut juste arrêter de penser, calmer son esprit, ça suffit. Elle essaie de souffler lentement, comme quelqu'un qui vient de courir veut retrouver sa respiration. Elle marche et même si elle a froid, le froid n'est pas un ennemi, il lui fait du bien, la redresse. La blessure qu'il lui inflige est bonne, vivifiante. Elle se réveille. Les idées, la vue se stabilisent, l'opacité se dilue et enfin elle retrouve pied. Elle marche encore et reprend le même chemin que tout à l'heure, quand elle marchait avec Arnaud. Une fois encore, elle le fait sans s'en rendre compte. C'est comme ça. Naturellement, elle va vers les chevaux, sans se poser de questions. Elle avance. Elle voit sous le ciel bleu laiteux les formes découpées des montagnes et, au-dessous, les masses plus sombres, profondes, des forêts. Et les taches presque blanches, d'un gris tourterelle, des yourtes.